Cher auditeur, chère auditrice, un grand bonjour à toi. On est super heureux de te retrouver pour ce troisième numéro de 2022. Ingrid au micro pour te présenter Salut l'Info.
Un podcast de France Info et du magazine Astrapi.
Et pour commenter l'actu de la semaine, nous sommes accompagnés.
Bonjour, je m'appelle Eve, j'ai presque 11 ans et je vis à Paris.
Et cette semaine, dans ton Salut l'Info,
le portrait de l'abbé Pierre à l'occasion des 15 ans de sa mort, la première greffe d'un cœur de cochon sur un humain, les aventures étonnantes d'une peluche globe-trotteuse et bien sûr tes blagues. Alors, prêt à explorer l'actualité?
Allez, c'est parti!
Ça fait du bien d'entendre le bruit des vagues. C'est la mer Méditerranée.
C'est la mer d'Irlande qui borde la toute petite île anglaise de Peel. Sa dizaine d'habitants aimerait trouver un gardien ou une gardienne pour entretenir son terrain. Jusqu'alors, cette mission était remplie par celui qui dirige le café-restaurant de l'île. Aujourd'hui, le gouvernement britannique lui cherche un remplaçant. Il a donc passé une annonce en précisant que selon la coutume, celui ou celle qui sera engagé pendant 10 ans sera couronné roi ou reine.
Waouh !
Les Anglais, ils sont attachés aux coutumes, donc pour que ce soit un vrai bon Anglais ou même une autre personne, on le sacre de façon rigolote pour être sûr qu'il soit patient et qu'il prenne du plaisir à entretenir l'île.
Effectivement, ce titre implique de longues heures de travail, car le roi ou la reine doit aussi s'occuper du château fort.
Et ça se visite le château ?
Oui.
Donc les touristes qui visitent le château, ils pourraient faire une petite pause déjeuner, et puis l'argent, il pourrait servir au roi ou à la reine de l'île d'entretenir l'île.
Une île qui attire de plus en plus de touristes, séduits par les paysages naturels, les oiseaux et les phoques qui viennent y trouver refuge. Un environnement royal pour celui ou celle qui décrochera la couronne en avril. Pour la première fois aux États-Unis, des chirurgiens ont greffé un cœur de cochon sur un humain. Le patient s'appelle David Bennett, il a 57 ans et son cœur fonctionnait très mal. D'habitude, quand quelqu'un reçoit une greffe de cœur, l'organe vient d'une personne qui vient de mourir et dont le cœur, pas abîmé, peut peut-être sauver une vie. David Bennett, lui, était trop malade pour recevoir un cœur humain. Alors, il a accepté de tenter cette opération très risquée.
Mais le cochon, ça n'a pas les mêmes cellules qu'un humain, donc le greffer dans le corps d'un humain pour son développement, je ne sais pas si ça marcherait.
Pour cette greffe, des spécialistes ont justement modifié le cœur d'un cochon pour qu'il ressemble le plus possible à celui d'un homme. L'opération s'est bien passée, mais on attend de savoir si le cœur va bien fonctionner dans le corps du patient.
Et le monsieur, il s'est dit aussi c'est pour son bien-être et puis aussi pour l'intérêt scientifique pour qu'on sache si ça marche dans des cas éventuels à venir.
Oui, car si ça marche, ce serait une très grande avancée médicale. Davantage de personnes malades pourraient avoir accès à un nouveau cœur. Mais cette technique soulève aussi des inquiétudes, notamment chez les associations de défense des animaux. Pour elles, on ne doit pas utiliser les animaux au profit des hommes, même si ça peut sauver des vies. À suivre donc. Avec la pandémie, beaucoup de classes vertes ont dû être annulées. Alors, pour s'échapper d'une autre manière, les élèves d'une école de Hennebon, en Bretagne, ont eu l'idée de faire voyager leur mascotte à leur place. Prénommée Blanche, cette peluche représente une hermine, c'est l'emblème de la reine Anne de Bretagne.
Comme eux, ils ne peuvent pas voyager et que souvent les voyages scolaires, c'est pour apprendre quelque chose. Ils trouvent un moyen de trouver les informations qu'ils recherchent en apprenant des informations en direct avec leur mascotte. Oui, c'est bien.
Les écoliers peuvent suivre ses aventures grâce à Internet. Et depuis septembre, Blanche s'est déjà rendue au Bénin en Afrique, au Canada, en Guadeloupe. Et en février, la peluche participera à une course automobile qui la conduira jusqu'au Maroc. Sacrée globe-trotteuse!
Salut l'info, c'est l'info qu'il vous faut!
Le prêtre le plus célèbre de France est mort il y a 15 ans, le 22 janvier 2007. Toi qui nous écoutes, tu n'étais pas né. Mais peut-être as-tu déjà entendu parler de l'abbé Pierre. C'est le fondateur de l'association Les Compagnons d'Emmaüs. L'abbé Pierre a consacré sa vie à lutter contre la pauvreté. Pauline de France Info nous raconte son histoire.
Le vrai nom de l'abbé Pierre, c'est Henri Grouès.
Comment êtes-vous devenu l'abbé Pierre ?
C'était l'avant-dernier des pseudonymes que j'avais eu dans la Résistance. Oui. Et alors, Pierre, c'est quand je suis arrivé à Alger, on m'a dit, on ne peut pas annoncer, car j'ai beaucoup de famille, j'ai 107 neveux et nièces.
Grande famille.
À partir de 3 frères et 1 sœur mariée.
Ils sont fiers d'avoir l'abbé Pierre dans leur famille ?
Quelquefois, ça les a encombrés. Mais on est très fraternels, on s'aime beaucoup.
Né le 5 août 1912 dans une famille riche, catholique et très croyante, Henri a 7 frères et sœurs et c'est en voyageant à Rome à l'âge de 16 ans qu'il est frappé d'un coup de foudre avec Dieu, comme il dit. Alors il entre dans les ordres, c'est-à-dire qu'il devient prêtre. En 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate. Henri Grouès devient résistant contre l'Allemagne nazie. Il aide des Juifs à fuir la France grâce à des faux papiers d'identité pour qu'ils échappent à la persécution. C'est là que, pour échapper à la police allemande qui le recherche, il prend le faux nom d'abbé Pierre, qu'il gardera toute sa vie. Après la guerre, il s'engage en politique et devient député en Meurthe-et-Moselle.
C'était la première élection après la guerre. Et j'ai été tout de suite élu. Et pendant 7 ans, j'ai été au Parlement.
Mais cette action politique n'est pas ce qu'il préfère. Sa vocation reste d'aider les gens en détresse. En 1949, l'abbé achète une maison près de Paris, mais elle est trop grande pour lui. Alors il crée une auberge de jeunesse, avec l'aide de sa secrétaire, rencontrée pendant la guerre, Lucie Coutaz.
La maison était quasi en ruine. On passait avec une échelle à travers les planchers pour monter au premier étage. Il n'y avait plus de carreaux, plus de lumière, des gouttières partout. Mais après avoir fait le tour, je me dis qu'il y avait moyen d'en faire quelque chose, que c'était idiot de laisser tomber ça en ruine, et je louais. Et aussitôt, je me mis à bricoler.
Mais ce n'est que 5 ans plus tard que l'abbé Pierre devient un symbole. À l'hiver 1954, les températures atteignent les moins 30 degrés. Un bébé et une femme vivant dans la rue meurent de froid. Scandalisé, l'abbé Pierre lance un appel à la radio pour aider les personnes sans abri.
Mes amis, au secours! Une femme vient de mourir gelée cette nuit à 3 heures sur le trottoir du boulevard Sébastopol, serrant sur elle le papier par lequel, avant-hier, on l'avait expulsée. Chaque nuit, ils sont plus de 2000 recroquevillés sous le gel. Sans toit, sans pain.
Le téléphone de la radio est submergé d'appels. Beaucoup de personnes veulent donner de l'argent. L'abbé Pierre récolte une très grosse somme. Et avec cet argent, il fait construire des cités d'urgence pour loger les SDF. Il crée l'association Emmaüs, que tu connais peut-être. Cette association aide des personnes à sortir de la pauvreté, par exemple en leur offrant un logement ou un travail. Il crée aussi la fondation Abbé Pierre pour défendre les personnes mal logées. Et son combat fait naître une loi qui interdit l'expulsion de locataires pendant l'hiver. L'abbé Pierre est mort à 94 ans et il est resté engagé jusqu'au bout de sa longue vie pour défendre les personnes les plus en difficulté. Son combat est, hélas, toujours d'actualité.
Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir. Ici, on t'aime.
Merci Pauline. Et pour découvrir la vie de l'abbé Pierre, nous te conseillons de lire « L'abbé Pierre, l'aventurier du cœur », une BD d'Astrapi. Tu pourras peut-être l'emprunter à la bibliothèque.
Non mais vraiment, j'ose pas le dire.
J'ai pas envie d'en parler.
Mais si, vas-y, on se dit tout.
Et cette semaine, c'est Ambre qui nous a laissé un message sur notre répondeur.
Bonjour, je m'appelle Ambre, j'ai 11 ans et j'habite à Aubonne. En fait, il s'est passé quelque chose.
c'est que je suis tombée de cheval et devant plein d'autres de mes amis et je trouve que je me suis un peu ridiculisée et j'aimerais bien avoir des conseils. Merci.
Coucou Ambre, ne t'en fais pas. Ce n'est pas parce que tes amis ont ri que c'est une vraie moquerie. Si tu t'étais vraiment fait mal, je peux t'assurer que personne n'aurait rigolé. Dans une chute, il y a souvent un côté Charlie Chaplin ou gag de la glissade sur peau de banane. Et ça peut provoquer un rire irrésistible, voire nerveux. Et puis tu sais, quand tu te sens comme ça jugé, voire blessé par le regard des autres, tu peux t'entraîner à t'en détacher. Plus facile à dire qu'à faire, mais je t'assure, c'est possible. Un petit conseil, si tu es la première à rire de toi-même, personne ne te trouvera ridicule. Donc, la prochaine fois que tu fais une petite cascade, en te relevant, essaie de faire preuve d'autodérision. Autre conseil, en équitation, tu as une bombe et un protège-dos. Eh bien, essaie de te dire que tu as un protège-regard des autres et une bombe anti-moquerie. Persévère et concentre-toi sur le grand plaisir que tu as à monter à cheval et à être avec ton animal préféré. Quant à ton public, tous ces yeux qui te regardent, ne prends que le meilleur. Il est là surtout pour t'applaudir quand tu réussis un saut d'obstacle. Et permets-nous une comparaison amusante. En moyenne, un tout petit enfant tombe environ 2000 fois entre sa première tentative de marche et le grand jour où il saura marcher. Et il n'est pas ridicule pour autant. Alors nous ne te souhaitons pas bien sûr de tomber 2000 fois de ton cheval, mais il te faudra sans doute quelques autres petites chutes pour devenir une excellente cavalière. Bisous et en selle, Ambre.
Bonjour, vous êtes sur la boîte à blagues.
Laissez votre message après le...
On veut des blagues.
Et hop, c'est magique. Un coup de baguette, voilà tes blagounettes.
Bonjour, je m'appelle Thomas, j'ai 8 ans et je veux vous raconter une blague. Quelle est la plante qu'on n'arrose jamais?
Le cactus?
La plante des pieds. Merci.
Elle est rigolote celle-là.
Et la prochaine va à toute allure.
Bonjour, salut l'info. Je m'appelle Adèle, j'ai 8 ans, j'habite à Puteaux et voici ma blague. Tu fais une course de voiture. Tu doubles le deuxième. En quelle position es-tu?
Je sens que je vais tomber dans le panneau.
Deuxième. Au revoir, salut l'info, bisous.
Trop bien cette blague.
Et hop, suivante.
Bonjour, je m'appelle Roméo, j'ai 8 ans et j'habite à Saint-Même. J'ai une blague pour vous. Alors voilà, c'est Toto, il enterre son poisson rouge et son voisin lui dit « Ah bah c'est un très gros trou pour un poisson rouge, Toto. » Et Toto répond « Oui, mais c'est parce que j'enterre aussi votre chat qui a mangé mon poisson rouge. »
Le répondeur de Salut l'Info ronronne de plaisir chaque semaine quand il fait le plein de blagues, devinettes et confidences. Ce drôle d'animal a les oreilles grandes ouvertes, il est très impatient de t'écouter. Tu sais comment faire? Tu pianotes le 01 47 79 40 00.
Le coup de cœur de la semaine.
C'est celui de Léa, 9 ans, pour le roman illustré « L'épouvantable bibliothécaire » d'Anne-Gaëlle Balp, publié aux éditions Sarbacane.
L'héroïne, elle s'appelle Suzanne et elle a 11 ans. Elle est plutôt grande, comme moi qui fais 1m44.
Suzanne habite en ville et part 2 semaines en vacances à la campagne chez sa tante. Et elle a très peur de s'ennuyer sans ses livres qu'elle dévore.
Elle aime pas jouer avec les autres enfants, elle aime bien être seule. Donc juste elle, ce qu'elle aime, c'est les livres et encore les livres. Après, chez sa tante, elle voit un manoir qui ressemble un peu à une bibliothèque. Donc c'est une bibliothèque, mais sa tante, elle lui dit « N'y va pas, c'est hanté, il y a une méchante bibliothécaire, elle aime pas être dérangée. » D'ailleurs, c'est simple, personne n'y va jamais. Donc elle veut quand même tenter l'aventure une première fois. Elle a peur, donc elle repart. Après, elle retente l'aventure une deuxième fois, mais là, il lui arrive plein d'aventures dedans. Elle est en même temps courageuse et en même temps un peu peureuse.
Il y a de quoi. On raconte même que cette sorcière de bibliothécaire passerait les humains et les animaux dans une machine à aplatir. Voilà en tout cas un livre à suspense, plein d'humour.
Oui, il y a beaucoup d'humour. C'est qu'ils emploient des mots familiers. Après aussi dedans, en fait, on a 3 petits bonus au milieu des chapitres. Il y a un bonus sur les bibliothèques Et il y a un bonus sur les microbes et les virus. Il doit avoir 212 pages. On dit, oh là là, ça va être impossible à terminer, mais non, moi, je l'ai lu juste en 2 jours.
Alors, si comme Suzanne, l'héroïne, et Léa, tu as faim de lecture et que tu veux vivre une belle aventure, tu peux lire ce roman illustré, L'épouvantable bibliothécaire d'Anne-Gaëlle Balp.
Et c'est une illustration de Ronald Vadel.
Et il est publié aux éditions Sarbacane.
Déjà fini ?
Oui, c'est le terminus de notre voyage à travers l'actu. En attendant d'embarquer pour un prochain épisode, l'équipe d'Astrapi et de France Info te salue. Garde la pêche et ton sourire. Et un grand merci à Roger Mols pour son coup de main musical illustrant le dossier de l'abbé Pierre. Et on se quitte avec la chanson « Haunted Heart » de Christina Aguilera.
Merci, salut l'info. À bientôt. It's the trap you've been waiting for. Ain't no windows, ain't no doors, no escape in the way you feel. It's like a dream, but you hold me to real. My heart is a haunted house. My heart.